Bonjour à toutes et à tous. Il y a plein de manières d'évaluer les lettres A, B, C, acquis, non acquis, mais peut-être préférez-vous les notes sur 20. D'ailleurs, depuis quand note-t-on sur 20? Eh bien, nous allons l'apprendre aujourd'hui, puisque nous parlons de l'évaluation scolaire et même de l'évaluation tout court, car les notes ont envahi notre quotidien.
Rue des Écoles. Louise Touret.
Les pratiques d'évaluation scolaire, histoire, difficultés, perspectives, c'est l'ouvrage qui a servi de prétexte à cette émission, également de documentation. C'est un livre de Pierre Merle qui est notre invité. Ce livre est une somme, la somme sur la question des notes et de l'évaluation, une somme historique pour commencer. Et il faut se plonger dans l'histoire de l'éducation pour comprendre pourquoi et comment on évalue les élèves encore aujourd'hui. Il est important ce comment, car il contient une problématique, la problématique de l'évaluation. Doit-on évaluer d'abord les progrès de chacun ? Ou évaluer les élèves les uns par rapport aux autres, les comparer et les classer. C'est toute une philosophie de l'enseignement et de la transmission qui est contenue dans cette question de l'évaluation et des notes. Question pas tout à fait tranchée à l'heure qu'il est, alors que les pratiques d'évaluation se diversifient à l'école et se répandent au-delà dans la société du service où l'on note les hôtels, les chauffeurs de taxi, les VTC, les agents commerciaux. Et en fin d'émission, on retrouve la leçon de choses de Sophie Bobert. C'est important d'apprendre à ne pas avoir peur, surtout pour les petites filles. Et ça s'acquiert aussi à l'école. C'est ce que raconte la romancière et novelliste Geneviève Brisac à travers son parcours scolaire. Et puis, comme chaque semaine, l'actualité de l'éducation. Et cette semaine, c'est avec vous, Erwin Canard. Bonjour.
Bonjour Louise.
Et de quoi allez-vous nous parler ?
Alors, nous allons parler du nouveau livre de Jean-Michel Blanquer, de Pôle emploi et de Parcoursup.
Pôle emploi, ça m'intrigue ça. Une rubrique en partenariat avec l'étudiant.
Je vous rends les dissertations. Alors là, nous descendons dans les bas-fonds de l'intelligence humaine, comme Noémie qui, avec 4 sur 20, a même réussi à faire des progrès. Anna, c'est 20, c'est stupide, 5. En revanche, votre sœur Louise, c'est intelligent, 15. Il y a 10 points d'écart entre vous deux. Comme quoi les mystères de la génétique sont impénétrables.
Peut-être aurez-vous reconnu la voix de Denis Podalydès et c'est un extrait de la bande-annonce du film Les Grands Esprits de Olivier Ayache Vidal, un film sorti il y a quelques mois. Le cinéma est plein de remises de copies des scènes dans lesquelles on voit comme ça les élèves jugés, les notes sont dites devant toute la classe. Ça fait partie parfois des souvenirs cuisants qu'on peut avoir de l'école. On va donc parler de l'évaluation avec nos deux invités. Pierre Merle, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sociologie en poste à l'ESPE, École supérieure du professorat et de l'éducation de Bretagne. Et je l'ai dit en tout début d'émission, vous publiez les pratiques d'évaluation scolaire historique, difficultés, perspectives. C'est au PUF, ça vient de paraître et vous êtes avec nous grâce à la magie du duplex et grâce à France Bleu Armorique. Jean-Marc Huard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes DGESCO, directeur général de l'enseignement scolaire. Vous êtes numéro 2, en fait, du ministère. Je crois qu'on peut dire comme ça, si on veut simplifier. Vous l'êtes depuis le 2 août 2017. On se souvient que c'est un poste que Jean-Michel Blanquer a occupé. Vous connaissez très bien le système scolaire, aussi l'évaluation. Vous avez été enseignant également.
J'ai été enseignant, oui, 11 ans.
De
sciences économiques et sociales.
Ah tiens, comme Pierre Merle, c'est intéressant. Alors on va commencer avec l'histoire de l'évaluation, je l'ai dit, une histoire très intéressante qui remonte à bien avant l'école dans sa forme contemporaine, avant le 19e siècle. Et tout de suite, s'est posée la question de ce qu'on évaluait, est-ce qu'on classait ou pas les élèves. Il y a, pour le coup, deux écoles sur la question. Pierre Merle, est-ce que vous pouvez nous raconter cela ?
Il y a effectivement deux écoles. La première est celle qui a été développée dans les collèges jésuites par Ignace de Loyola au milieu du XVIe siècle. Il faut rappeler, le projet de collège jésuite était de former des soldats de Dieu, c'est-à-dire une élite intellectuelle et religieuse qui avait pour objet de lutter contre le protestantisme. Et en fait, chaque classe était divisée en deux catégories, les Romains et les Carthaginois, et ils devaient chacun lutter pour essayer de l'emporter, et pour lutter contre l'un contre l'autre, ils accumulaient des points. Et ceux qui avaient le plus de points gagnaient. Et donc le premier devenait l'empereur, et puis après il y avait toute une hiérarchie avec des décurions, des sénateurs. Et c'était une lutte perpétuelle qui devait entraîner ces jeunes enfants à devenir les soldats de Dieu et les meilleurs. Et à la fin de chaque année, il y avait trois catégories, en fait, les optimi, les meilleurs, les doubis qu'on faisait passer dans la classe supérieure pour voir si ça pouvait aller, et puis les ineptes qu'on éliminait. Ça, c'est la première conception qui est encore présente dans une certaine mesure dans certains lycées ou dans certaines sections ou en classe préparatoire parfois. Puis il y a quelque chose qui est tout à fait différent qu'il faut avoir en mémoire, qui est l'Institut des Frères des études chrétiennes, qui scolarisait plutôt les enfants des catégories moyennes ou populaires, qui a été créé par Jean-Baptiste de La Salle. Et là, on est sur un modèle complètement différent. Il y avait des catalogues de compétences en écriture ronde, en écriture bâtarde, et il y avait des niveaux. Et en fonction de la progression des élèves, eh bien, ils passaient dans un niveau supérieur. Donc d'un côté, on a un système qui est très sélectif, qui vise à former des meilleurs et à éliminer les autres. Et de l'autre côté, on a un système qui a donné finalement l'école communale, qui est la scolarisation pour tous, en prenant le temps en fonction du développement cognitif des enfants. Deux modèles qui sont encore présents aujourd'hui, comme vous le notiez en introduction.
Qui sont présents au fil de la scolarité, vous l'avez dit. On évalue par compétences aujourd'hui à l'école élémentaire avec un livret de compétences. J'ai Jean-Marc Huard à côté de moi pour me corriger si je fais une erreur. Au lycée, ce sont évidemment les notes sur 20. On va reparler du bac, puisque le bac organise la scolarité au lycée, peut-être même avant. Et puis au collège, c'est un petit peu mélangé. Il y a une énorme diversité des pratiques. On va revenir à l'histoire après, mais sur la diversité aujourd'hui, qui est aussi due à cet héritage historique. Jean-Marc Huard.
Déjà, je crois que par rapport à l'extrait du film, je dois dire que ces pratiques sont évidemment pas courantes aujourd'hui. Je crois qu'on s'en éloigne de plus en plus. On a effectivement une diversité des pratiques. Je suis pas sûr qu'elles soient si importantes que cela. Quand on regarde l'évolution ces dernières années, dans l'enseignement primaire, les appréciations littérales et l'évaluation par compétences est aujourd'hui très largement minoritaire. L'usage de notes est extrêmement minoritaire. Ça concerne encore à peu près 5% des écoles, si je me réfère à un rapport des inspections générales de 2013.
On a lu le même, hein.
On a lu le même.
Qui pourtant souligne la diversité aussi des pratiques et la difficulté même à cerner les raisons de cette diversité, car on manquerait de cadrage national. Est-ce que c'est encore le cas, Jean-Marc Huard ?
Je pense qu'on en a, on a davantage de cadrage aujourd'hui qu'il y a quelques années. Je vous donne quelques exemples. Vous évoquiez le livret de compétences. En fait, dans le cadre de la scolarité obligatoire, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture est évalué, et l'ensemble des évaluations rentre dans ce que vous avez appelé le livret de compétences, et après, en fait, le livret scolaire unique. Donc, on a de fait une convergence en quelque sorte. Oui, il a changé de nom depuis quelques années. Donc, en fait, on a une forme de convergence. Et cette évolution fait que il y a eu inévitablement une réflexion sur les pratiques d'évaluation dans les écoles et dans les collèges aussi, parce que ça concerne l'ensemble de la scolarité obligatoire. Ça va en gros jusqu'à la fin de la troisième. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que effectivement, plus on monte de classe, plus les pratiques, et notamment la notation chiffrée, prend de l'importance. L'autre élément que je voulais souligner, c'est que ces dernières années, nous avons essayé d'engager les enseignants vers une réflexion sur l'utilité en fait qui est faite de l'évaluation. Et l'évaluation, elle a une utilité extrêmement importante. À la rentrée 2017, nous avons, à la demande du ministre Jean-Michel Blanquer, rétabli les évaluations repères en début de classe de cours préparatoire. Nous allons le renouveler.
Donc à caractère national.
Là, alors à caractère national, ce sont des évaluations.
Fait, un type tout à fait différent d'évaluation de ce qui se fait au jour le jour et sur lequel on va revenir.
D'accord. Donc, nous allons développer cela à la rentrée 2018 hein, en mettant des évaluations identiques en classe de CE1 et également en classe de 6e. Tous ces éléments-là font que nous amenons inévitablement les enseignants vers une réflexion sur l'évaluation de manière à pouvoir, trouver les réponses pédagogiques aux difficultés des élèves, difficultés qui sont identifiées le plus précocement possible.
Parce qu'on évalue dès la maternelle, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été très critiqué à l'époque où ça a été plus globalement mis en place, mais ça, vous vous en souvenez, Jean-Marc Huard, puisque vous étiez conseiller de Luc Châtel. Pierre Merle, je voulais revenir avec vous sur et rebondir sur ce qu'a dit Jean-Marc Huard, parce que dans cette question de l'évaluation, il y a l'évaluation des élèves, mais aussi des classes, mais aussi des établissements, et finalement une forme de mise en abîme où on évalue tout le temps. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi une question qui pose problème dans un monde où parfois les écoles sont mises aussi en concurrence ?
Alors l'histoire, je voudrais d'abord revenir sur l'extrait du film, parce qu'il paraît anecdotique, et j'ai fait une enquête en ligne qui est présente dans l'ouvrage, auprès des professeurs stagiaires qui, en fait, s'adaptent aux pratiques de notation et d'évaluation dans l'établissement où ils sont en poste. Et j'ai été quand même très surpris d'apprendre que, dès novembre 2017, donc 2 mois après leur rentrée en tant que professeur stagiaire, 45% avaient déjà mis des notes égales ou inférieures à 3 et 70% des notes égales ou inférieures à 6. Donc la pratique de la mauvaise note est encore extrêmement fréquente en collège et en lycée. Et par ailleurs, puisque je leur demandais quelles étaient les pratiques évaluatives les plus fréquentes, c'est vrai qu'au niveau de l'école élémentaire, ce sont des évaluations par compétences, les notes sont très minoritaires, mais en collège, elles sont majoritaires, et en lycée, il n'y a quasiment que ça. Donc on est encore sur un système, malgré les efforts faits par les ministères successifs pour modifier les pratiques d'évaluation des professeurs, on est encore sur un système qui est très traditionnel, qui est très marqué finalement
ma question, par le 19e. Un système oui, historiquement marqué, mais aussi parce qu'on s'aligne sur les pratiques générales, parce qu'on est aussi amené à se comparer entre professeurs, et voire entre lycées. Et on sait bien aussi que c'est même le système au collège, puisque c'est suivant leurs notes que les collégiens vont être affectés dans tel ou tel lycée. Et on parle bien de notes sur 20.
Oui, alors en fait, mon propos était de nuancer celui qui avait été énoncé précédemment pour dire que malgré tous ces efforts, on est quand même resté très 19e, je dirais, enfin la fin du 19e au moment de la naissance de la notation, et les évolutions se font très lentement. Je peux dire qu'on a changé de modèle majoritairement au niveau de l'école élémentaire. On est encore sur le modèle traditionnel pour une part au niveau du collège, bien que là, la transformation est en train de se faire. Et donc, ce système a tendance à se reproduire et aussi à se développer puisqu'on évalue les élèves en permanence. Et puisqu'il a été question des évaluations repères, il y a un certain nombre de spécialistes qui considèrent que ces évaluations repères, elles sont intéressantes du point de vue du pilotage du système éducatif pour savoir ce que savent les élèves, mais du point de vue des pratiques pédagogiques qui sont beaucoup plus fines, elles ne sont pas très utiles parce qu'en fait, les informations qui sont recueillies pour des populations très élevées d'élèves, des centaines de milliers d'élèves, ne valent pas pour caractériser ce que savent précisément, ce que c'est précisément tel élève dans la classe par rapport à tel autre. Dans ce cadre, par exemple, pour l'apprentissage de la lecture ou la compréhension implicite ou explicite des textes, il y a des logiciels, quelques tacites, ou il y a des logiciels en mathématiques qui permettent d'avoir une information beaucoup plus précise, utile du point de vue pédagogique. Alors que les évaluations nationales n'ont pas une visée de type pédagogique, elles ont une visée autre qui est tout à fait nécessaire, évidemment.
Mais est-ce que pour les parents, les familles, finalement, toutes choses égales par ailleurs, une évaluation, c'est une évaluation, une note, c'est une note. Et ce qu'on finit par voir, c'est ça, c'est la note. Et cette note, elle a tendance à faire écran, finalement, peu importe les commentaires, peu importe même le but. Ce qu'on voit surtout, c'est ce chiffre, ou à la limite, cette lettre qui, je l'ai dit, efface un peu tout le reste. Pierre Merle.
Tout à fait. Alors, dans mon ouvrage, je mets des exemples d'évaluation par compétences réalisées au niveau de l'école élémentaire. Donc, je mets des bulletins scolaires qui ont été rédigés l'année dernière la plupart du temps. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, en mathématiques, en arithmétique, de voir que chaque compétence est étudiée, connaissance des tables, calcul d'une surface, etc. Donc, je cite un certain nombre de bulletins scolaires avec une évaluation par compétences. On peut constater, par exemple, sur le bulletin que je mets, par exemple celui d'Antoine, qu'en mathématiques, il a quasiment que des acquis, sauf dans deux domaines où c'est marqué non acquis. Donc, s'il n'y avait qu'une seule note, les parents se diraient, bon, ben voilà, il a 17, il a 18, c'est parfait. En fait, il a quand même des lacunes très importantes sur des points très précis. Là, on est vraiment sur des types d'évaluation qui permet à l'élève de savoir exactement quelles sont ces lacunes et aux parents de savoir sur quoi il faut travailler. Donc, il vaut mieux rentrer dans le détail d'une évaluation par compétences plutôt qu'une note globale qui peut rassurer ou inquiéter à tort par rapport aux compétences effectives des élèves. Donc, l'idée, c'est de passer d'un modèle où il y a une évaluation globale qui est un peu trompeuse à une évaluation par compétences qui permet aux enfants, aux enseignants et aux parents de mieux savoir ce que l'élève sait, ne sait pas et sur quoi il doit concentrer ses efforts.
C'est ce qu'on reproche également aux moyennes, Jean-Marc Huard. Et finalement, c'est avec la moyenne qu'on passe le bac. Ces notes cachent aussi des lacunes. On peut voir l'évaluation par compétences comme une évaluation plus gentille, parce qu'on ne met pas de mauvaises notes. Mais est-ce que pour vous, c'est vrai aussi qu'elle a au moins le mérite de ne pas laisser passer de grosses lacunes, comme dit Pierre Mère?
Alors l'intérêt, les moyennes, comme toute évaluation, peuvent avoir tendance à cacher des lacunes, et tout le travail qui doit être fait, ça doit être l'explicitation effectivement de ces lacunes. L'intérêt de la note, quand même, c'est aussi la clarté. Dans le cadre du dialogue avec les familles, c'est extrêmement important. On sait, par exemple, qu'un système extrêmement complexe en matière d'évaluation peut poser des difficultés parce que quand il est finalement un peu trop technique, il faut pas qu'on perde les parents et tout l'apport que peuvent avoir les parents dans l'accompagnement des enfants.
Pour éclaircir un peu votre propos, si on peut le faire, dans les livrets d'évaluation, au départ, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cases. On avait même parlé d'usine à cases, peut-être trop d'items, parfois un peu jargonnant. Moi, j'avais vu, c'est tenir l'outil scripteur. Bon, voilà, est-ce que ça, c'est terminé?
Non, mais je crois qu'il y a vraiment, de ce point de vue-là, et encore une fois, c'est extrêmement intéressant d'avoir cette évaluation par compétences, mais il faut aussi du discernement, c'est-à-dire qu'il faut rester... je crois que la question de l'évaluation, c'est une question qui ne concerne pas uniquement le spécialiste qui est l'enseignant, ça concerne le spécialiste qui est l'enseignant, parce que c'est à partir de là qu'il met en place la pédagogie qui permet de répondre aux difficultés, le cas échéant, des élèves. Mais il ne faut pas perdre de vue que ça doit aussi être explicite pour l'élève et explicite pour les parents. Donc il y a vraiment cette attention particulière à avoir. Et c'est cette attention particulière que nous voulons mettre en place dans le cadre des évaluations de CP et de CE1 l'année prochaine. Et je pense que Pierre Merle, dans ce qu'il disait il y a un instant, se réfère à celles qui ont pu exister. Nous avons travaillé avec le Conseil scientifique de l'éducation nationale, qui est présidé par Stanislas Dehaene, que Jean-Michel Blanquer a voulu installer auprès de lui, pour avoir des évaluations qui soient extrêmement claires, qui repose sur des attendus qui sont très clairs, comprendre des textes, par exemple, sans autre aide que le langage entendu, manipuler les syllabes, etc. Et à partir de ces évaluations, nous sommes en train de faire un travail pour que chaque domaine puisse être relié à des ressources permettant véritablement à l'enseignant, à partir d'une lacune observée, d'avoir les réponses adaptées.
Alors, si vous les défendez, parce que je dois quand même aussi donner le sous-texte, c'est parce que ces évaluations nationales font débat, elles ont fait débat par le passé, elles ont été supprimées par les ministres de l'Éducation du dernier gouvernement, enfin par Vincent Peillon. Elles font débat aussi parce qu'elles peuvent effrayer les parents, et puis parce que évaluer en début de CP, ça peut paraître un peu étrange par rapport à des élèves qui évidemment n'ont pas encore appris à lire. Aussi parce que ça crée du stress, et ça c'est l'histoire de l'évaluation, Pierre Merle, c'est tout ce stress, cette angoisse autour de la note, et même de savoir si les compétences sont acquises ou non quand on parle de plus jeunes enfants.
Alors, il y a eu beaucoup d'études faites là-dessus. Je regrette que le terme de bienveillance ait été abandonné, puisqu'en fait, il y a aussi un certain nombre d'études faites par les neurobiologistes sur l'effet de des relations bienveillantes qui va provoquer des productions de dopamine ou d'endorphine qui créent du bien-être et qui favorisent les apprentissages, alors que, au contraire, dans le contrôle et les évaluations qui existent actuellement, eh bien, celles-ci provoquent du stress, de l'adrénaline, qui sont contre-performantes, qui favorisent les contre-performances. Il y a des données aussi au niveau de l'OCDE qui montrent que les collégiens sont particulièrement angoissés, et même des études françaises qui sont angoissées par les contrôles, qui ont peur des contrôles. 66% des collégiens, par exemple, déclarent qu'ils ont peur de la mauvaise note. Et même une étude, puisque j'ai essayé de faire le tour de la question, de l'OMS, qui montre, et ceci me paraît très important, qu'il y a seulement 45% des collégiens qui ont un bon sentiment de compétence, alors que la proportion au niveau des collégiens européens est de 62%. Donc on a en France des collégiens qui ont un sentiment de compétence qui est largement en dessous des autres collégiens. Et de surcroît, on s'aperçoit que ce sentiment de compétence, alors même que les enfants en savent plus en troisième qu'en sixième, ce sentiment de compétence diminue. Donc on voit qu'il y a une particularité de notre système, notre collège, qui amène les enfants à avoir de moins en moins confiance en eux. Or, cette confiance en soi est un élément essentiel de l'apprentissage. Et c'est en ce sens qu'il faut repenser nos pratiques d'évaluation, puisqu'on sait que cette perte de confiance en soi, elle vient notamment des mauvaises notes. Et ceci n'est pas surprenant quand, comme je vous le disais tout à l'heure, suite à l'enquête en ligne que j'ai réalisée, on s'aperçoit à quel point des jeunes professeurs, stagiaires, mettent autant de mauvaises notes. C'est que leurs contrôles ne sont pas adaptés, ou bien les cours ne sont pas adaptés au contrôle. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne devrait pas arriver à mettre des zéros à des élèves. Il y a quelque chose qui n'a pas été bien réalisé pour arriver à cette situation. Puis on sait après que ces zéros, ou ces deux, ou ces trois, vont avoir des effets contre-productifs. Et on est aujourd'hui sur des effets contre-productifs assez forts de la note traditionnelle qui est encore très présente en collège et en lycée.
Parce qu'on s'identifie très fortement à cette note chiffrée en tant que personne, en tant qu'élève ?
Oui, de toute façon, il y a un raccourci qui est classique, ce n'est plus le contrôle qui est faible, c'est l'élève qui est faible. J'ai été 10 ans en conseil de classe et on voit bien le glissement sémantique est très fréquent. Il est faible et le gamin s'identifie de cette façon-là. Donc on provoque ce qu'on appelle en psychologie cognitive des phénomènes de résignation apprise qui sont extrêmement faibles, extrêmement forts. C'est-à-dire que les gamins qui sont situés qui sont dans des situations d'échec où ils ont très souvent des mauvaises notes, ont le sentiment que travailler ne sert à rien et ils finissent par être totalement démotivés et décrochés. Donc on a vraiment, dans les pratiques d'évaluation usuelles, encore très fréquentes en tout cas au collège, même majoritaire en collège et en lycée, on a des phénomènes de décrochage qui sont liés à une mauvaise adéquation des contrôles par rapport à ce qui a été appris en classe. On est souvent sur un système qui a tendance à déconnecter les apprentissages d'un côté et les évaluations de l'autre. Alors qu'en fait, c'est un système, les deux devraient être pensés en même temps, l'évaluation devrait être constituée essentiellement de conseils qui visent à donner aux élèves les moyens de poursuivre leur apprentissage et non pas de sanctionner. C'était dans la loi Peillon de 2013, il faut éviter les notations sanctions à faible valeur ajoutée. Je crois que tout est dit.
Pierre Merle, on va faire réagir Jean-Marc Huard sur cette question de la mauvaise note, de ce raccourci, vous utilisez ce terme que font les élèves et peut-être aussi leurs parents entre la note et la personne. J'ai à côté de moi le livre de Jean-Michel Blanquer, L'école de la confiance. Pierre Merle a parlé de perte de confiance en soi. Est-ce que c'est une question dont va se saisir la DGESCO, Jean-Marc Huard, la Direction Générale des Affaires Scolaires?
Il y a un chapitre du livre du ministre,
oui,
dont le titre est « Faire de l'évaluation des élèves un moteur de progrès et de confiance ». Donc là-dessus, on est d'accord avec Pierre Merle. Et il faut effectivement que la notation soit une notation sur le travail, enfin la notation, l'évaluation, soit une évaluation sur le travail de l'élève et que ce ne soit pas ressenti sur l'élève lui-même. L'évaluation, et je crois qu'il faut vraiment qu'on sorte du clivage et des débats et des effets de balancier. Je crois qu'on... Il faut, et je crois que nous sommes assez d'accord, et je crois que c'est assez consensuel, pour que l'évaluation soit un moteur de confiance de l'élève dans son propre travail, du professeur dans je dirais, la pédagogie qu'il met en place pour pouvoir répondre aux difficultés de l'élève. Tout ça dans une dynamique, est une dynamique positive qui va vers le succès.
C'est le principe des refaires que nous faisons. C'est l'idéal, Jean-Marc Huard. Mais on a entendu Pierre Merle sur les pratiques des jeunes enseignants. Et finalement, comme souvent sur l'école, on voit qu'on est rattrapé par une culture scolaire, des représentations, des habitudes acquises presque au moment où on était élève soi-même pour le jeune enseignant. Et finalement, on va se retrouver à mettre en place des pratiques qui sont très anciennes. On a vu à quand elles remontaient et qui sont aussi peut-être celles que les parents peuvent comprendre. Parce qu'il y a toujours un certain conservatisme scolaire, conservatisme dans le sens où il est plus clair, il est plus évident que l'école garde des pratiques similaires à celles que tout le monde a connues pour qu'on comprenne ce qui s'y passe.
Dans les évaluations repères de CPCE1 6e, nous aurons également des tests en seconde. Nous avons vraiment cette problématique et cette dynamique qui est de rentrer dans cette dynamique, dans une dynamique de confiance. Tout ça fait modèle et doit faire modèle. De la même manière, la formation des enseignants est absolument nécessaire sur l'évaluation. Nous lançons l'année prochaine une grande action au plan national de formation autour de cette question d'évaluation.
Ah, ben ça c'est une information. D'ailleurs, on va parler de la formation dans notre page d'actualité. Et puis après cette page d'actualité, je vous promets qu'avec Pierre Merle, on vous explique les origines de la note sur 20. Voilà qui a de quoi vous faire rester à l'écoute de Rue des Écoles. Et l'actualité de l'éducation, c'est une rubrique en partenariat avec le magazine L'étudiant aujourd'hui avec Erwin Canard. Rebonjour Erwin. Et on commence avec le tout nouveau livre donc du ministre de l'Éducation, de Jean-Michel Blanquer.
Et oui, après l'école de la vie en 2014, l'école de demain en 2016, voici l'école de la confiance. Le ministre de l'Éducation nationale, donc Jean-Michel Blanquer, a sorti un nouveau livre paru chez Odile Jacob qu'il a présenté à la presse il y a deux jours, vendredi 18 mai.
Et vous y étiez ?
Oui, j'y étais et on a assisté en fait à un nouvel exercice de communication et de pédagogie de la part du ministre. On y retrouve peu de nouveautés mais surtout les éléments de langage utilisés lors des différentes annonces. Le ministre a expliqué que la raison d'être de ce livre était de montrer la cohérence de ce qui s'est fait depuis un an.
Bon, c'est un petit peu de la communication, mais au-delà de la communication, il y a des informations, Erwin.
Oui, lors de cette présentation, le ministre en a profité pour confirmer que la prochaine réforme éducative portera sur la formation des enseignants. Deux éléments portent la réflexion de Jean-Michel Blanquer, la recherche internationale et l'expérience de terrain. Autrement dit, les formateurs devront davantage être des enseignants encore en poste. Et il a aussi indiqué que le pré-recrutement devrait être mis sur la table.
Alors, on va tout de suite parler du pré-recrutement. Moi, j'ai lu que dans la formation continue, les 18 heures obligatoire, on allait vérifier qu'elles allaient bien être prises par les professeurs des écoles. 9 heures seraient consacrées aux mathématiques et 9 heures aux français. Est-ce que ça, c'est obligatoire, Jean-Marc Huard? Je me permets de vous poser la question.
C'est effectivement,
pendant les actus
c'est effectivement une instruction que nous avons donnée à l'ensemble de directeurs, de manière à ce que la priorité aux enseignements fondamentaux, lire, écrire, compter, soit absolue à l'école primaire, notamment l'année prochaine, dans le cadre d'animation pédagogique que les inspecteurs font avec les professeurs des écoles, à raison de la moitié de ces animations sur le français et l'autre moitié sur les mathématiques.
Donc les fondamentaux aussi pour les enseignants, c'est une information contenue dans ce livre. Alors on le sait, vous venez de le dire, Erwin, le métier de professeur est victime d'une crise d'attractivité, et l'employeur, l'éducation nationale, tente tant bien que mal d'en limiter les effets.
Et oui, et une nouvelle étape vient d'être franchie dans le recrutement des professeurs, parce que si l'éducation nationale passait déjà par Pôle emploi pour diffuser des annonces et recruter des contractuels, là, elle va désormais confier à Pôle emploi la possibilité de former des enseignants. Pour pallier la pénurie, 1300 postes non pourvus au CAPES de 2017, une tendance qui court depuis plusieurs années et qui devrait se poursuivre en 2018, nos confrères de France Bleu Besançon ont révélé que les rectorats de Besançon et de Dijon ont développé un partenariat avec Pôle emploi pour recruter, donc, mais surtout former des professeurs contractuels. L'idée est celle-ci. Pôle emploi identifie des profils parmi les demandeurs d'emploi qui pourraient remplacer des profs absents. Et on promet ensuite que ces personnes suivront des formations et des stages en immersion. Et ce sera, au final, l'inspection académique qui validera ou non les compétences. Le doute est toutefois permis. On a vu ces dernières années de nombreux contractuels enseigner devant élèves avec parfois uniquement un entretien avec un inspecteur académique et une journée de formation.
Et parfois même pas de journée de formation. Enfin, je vous en reparlerai. Un autre jour, donc un appel à Pôle emploi, car la situation en fait est grave, hein, vous l'avez dit, Erwin.
Oui, et le recteur de Besançon, Jean-François Chanet, a d'ailleurs justifié ce dispositif en expliquant qu'il avait, je cite, « épuisé toutes les solutions internes ». En 2017, la Cour des comptes a estimé que les absences de moins de 15 jours dans le second degré n'étaient remplacées que dans seulement 5 à 20% des cas. Et ce nouveau dispositif Pôle emploi devrait accentuer une tendance qui dure depuis les années 2000. En 10 ans, le nombre de contractuels dans les premiers et second degrés a été multiplié par 3.
Alors, dans l'actualité de la semaine, il y avait également le report des partiels dans plusieurs universités, Nanterre, Nantes, Rennes, les centres d'examen ayant été bloqués. On va suivre également ce dossier de près, mais le grand sujet de la semaine passée et de la semaine prochaine, c'est Parcoursup. Pour vous, Erwin, pour convaincre les lycéens et les familles, le gouvernement pratique la méthode Coué ?
Eh oui, tout va bien se passer, Louise, on vous le promet. C'est en substance le message que tente de transmettre le ministère de l'Enseignement supérieur autour de Parcoursup. Les journalistes ont été conviés à un brief off rue Descartes en milieu de semaine pour qu'on leur explique que oui, ça va aller. Et alors que les lycéens auront une première réponse à tous leurs vœux, donc oui, oui si, en attente ou non, dans deux jours, mardi 22 mai, en fin de journée, le ministère a annoncé la mise en place d'une sorte de tableau de bord. Cet outil de suivi indiquera l'évolution globale de la situation et sera réactualisé chaque jour. L'objectif, en fait, c'est rassurer les lycéens en leur montrant que les choses évoluent rapidement. Alors, de la communication, certes, mais aussi des moyens, puisque le ministère promet une enveloppe d'une dizaine de millions d'euros, notamment pour l'ouverture de places supplémentaires à la rentrée dans certaines filières.
Et la rue Descartes, c'est, Erwin ?
À Paris.
Le ministère de l'enseignement supérieur, tout le monde ne le sait pas. Et il n'y a pas que la communication, il y a également la distribution de véritables éléments de langage au sein de l'éducation nationale.
Oui, toujours dans la volonté de rassurer, le rectorat de Versailles a en effet donné, lors d'une réunion avec des psychologues de l'éducation nationale, tout un tas d'éléments de langage, c'est le terme utilisé, à employer auprès des parents et des lycéens. Alors l'authenticité de ce document à usage interne à la base, qui a circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours, m'a été confirmée par le rectorat. On y trouve par exemple ceci. Il faut insister sur le fait que Parcoursup est une procédure qui commence et qui garantit à tous une place dans l'enseignement supérieur. Mais aussi qu'il faut faire patienter les candidats, que tout n'est pas joué le 22 mai et que les choses vont évoluer dans les 10-15 jours qui suivent. On trouve encore dans ce document d'autres consignes allant dans le même sens et finalement on ne peut que souhaiter, Louise, pour le ministère mais surtout pour les futurs étudiants, que la procédure Parcoursup fonctionne du mieux possible.
Début de réponse donc la semaine prochaine et un petit calendrier a été publié à l'attention des futurs étudiants.
Tout à fait, un calendrier qui précise les délais de réponse aux propositions d'admission. Alors il était déjà connu depuis plusieurs semaines mais la vue de ce calendrier très touffu démontre la complexité du processus. Alors un exemple, vous êtes prête Louise ?
Oui.
Si le candidat reçoit une réponse entre le 22 mai et le 17 juin, il a alors une semaine pour y répondre. Si c'est entre le 26 et le 28 juin, il a jusqu'au 1er juillet. Et ensuite, il a deux jours s'il reçoit une proposition entre le 29 juin et le 1er septembre. Mais il doit répondre le jour même s'il reçoit sa proposition du 2 au 21 septembre.
Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, mais c'est sûrement plus clair en regardant le calendrier.
Oui, c'est très visuel. Mais bref, le ministre n'aime pas beaucoup les écrans. Mais les bacheliers risquent bien de rester scotchés à leur ordi et à leur téléphone une bonne partie de l'été.
Merci beaucoup, Erwin Canard.
Thank you.
Vous écoutez Rue des Écoles sur France Culture. Aujourd'hui, nous parlons de l'évaluation et des notes à l'école. Et peut-être pas seulement, on y reviendra en fin d'émission. Mais d'abord, je l'ai promis avant les actualités, je voudrais, Pierre Merle, que vous nous expliquiez les origines de la note sur 20.
Alors, il y a toute une histoire quand j'ai essayé de reconstituer, puisqu'en fait, les premières évaluations chiffrées ont été mises en œuvre à l'École royale de la marine au 18e. Et là, c'était en fait les premières formes d'évaluation, c'était sous forme de lettres. Et d'ailleurs, au bac, dès sa création au début du 19e, on est sous des formes de couleurs. En fait, l'évaluation au bac se fait par des couleurs, c'est-à-dire ceux qui disent ce système de couleurs ou système de lettres, c'est des nouveautés de 68. Pas du tout. Les premières formes d'évaluation, ce sont des lettres ou ce sont des couleurs.
Rouge, blanc, noir.
Voilà, pour le bac, soit c'est rouge, ça veut dire c'est bon, il y avait trois examinateurs, blanc, on ne sait pas, et noir, c'était pas bon. Et donc, après, celui qui avait voté blanc devait déterminer si le candidat était pris ou pas pris. Donc, les premières formes d'évaluation sont des formes d'évaluation assez sommaire, entre c'est bon, ça peut peut-être passer ou ça ne va pas. Les premières formes d'évaluation, en fin de compte, chiffrées, ont commencé d'abord à l'École royale des ponts et chaussées, mais je ne peux pas trop détailler, bien que l'histoire soit tout à fait intéressante, parce qu'on est à la fois sur un système de points qui fait penser au collège jésuite, mais en même temps on est sur un autre système. Et puis en fait, c'est à l'École polytechnique que la note sur 20 a été inventée, par Gaspard Monge, qui était un mathématicien célèbre de l'école, qui était d'ailleurs l'examinateur de l'École royale de la marine, et qui a eu l'idée de construire cette espèce de simplification de la compétence des élèves au concours de sortie, et qui a été appliqué au concours d'entrée, puisqu'on n'était que sur un système de classement, et comme les examinateurs allaient dans les villes, et il y avait plusieurs équipes d'examinateurs, on se retrouvait avec des classements d'élèves de 1 à 50 dans différentes villes, on ne savait pas comment retenir les 50 ou les 100 meilleurs. C'est comme ça qu'a été inventée la note à l'École polytechnique, et il a fallu attendre 1890 pour que ce principe de la note soit mis en œuvre dans les décrets et les arrêtés qui ont organisé à la fois le bac et l'organisation de l'examen du certificat d'études primaires. Et même à l'époque, la note ou l'évaluation, ce sont des termes qui ne sont pas courants. Dans les décrets, quand on les lit, on s'aperçoit qu'il est indiqué les épreuves seront cotées sur 20. Dans le fameux dictionnaire pédagogie de Ferdinand Buisson, il n'y a pas entrée note, il n'y a pas l'entrée évaluation, il y a juste l'entrée examen. Donc la note a été construite d'abord, elle vient de l'École polytechnique, après ce sont les classes préparatoires aux grandes écoles qui ont commencé à utiliser ces notes pour préparer leurs élèves à l'École polytechnique. Après, c'est descendu au niveau du bac en 1890, où les notes sur 20 commencent à s'insérer, à exister au niveau du bac, et petit à petit, elles commencent à se développer au niveau lycée et collège. Et à cette époque, il y a déjà des débats pédagogiques sur le fait que le classement des élèves en continu n'est pas une bonne chose, mais des notes au demi-point n'ont absolument aucune signification. Et l'inspecteur général Pecot, à la fin des années 1890, dit « mais en fait, le meilleur système, ce serait plutôt d'évaluer avec des niveaux qui seraient très bons, bons, passables, faibles ». Donc on revient à ce qui a été institué dans la réforme du collège, avec une échelle de 4 niveaux qui permet aux élèves de se situer dans des catégories. Ce qui est beaucoup mieux que des notes, je tiens à signaler, parce que quand on fait des notes de 0 à 20, les gamins qui ont 1 ou 2, et c'est encore très fréquent, ils sont seuls parfois à avoir 1 ou 2, et c'est une situation qui est tout à fait humiliante et qui provoque en fait des phénomènes de résignation acquise, de démotivation et de décrochage. Donc ces débats sur les meilleures façons d'évaluer sont loin d'être nouveaux. L'historique nous éclaire beaucoup sur les différentes conceptions et le fait que certaines sont quand même bien meilleures que d'autres.
Alors, note sur 20 qui a eu une grande pérennité, aujourd'hui encore, on l'a déjà dit, on le redira, c'est le bac. Et justement, au sujet du bac, Erwin Canard a une question.
Oui, alors peut-être pour Monsieur Huard, justement, le nouveau bac va mettre en place le contrôle continu, c'est-à-dire que chaque note va désormais compter. N'est-ce pas alors la fin de ce qu'on appelle l'évaluation formative, qui a pour but d'améliorer l'apprentissage, et lieu et place de l'évaluation seulement sommative, qui a pour but de donner une note, mais pas forcément de rendre compte de l'amélioration des apprentissages?
La nouvelle, et peut-être pour que les auditeurs comprennent bien, hein, le nouveau baccalauréat, ça aura un poids de 40% basé sur du contrôle continu et 60% sur l'examen terminal. Ça permet un élément, un avantage évident, ça permet de ne pas faire reposer la totalité de l'examen sur une seule note en fin d'année sur une période de 5 ou 6 jours. Donc on est dans un processus qui est un processus continu. Ce que vous indiquez sur le fait que toutes les notes comptent, et donc finalement toutes les notes comptent pour l'examen, et donc tout est du sommatif et plus du formatif. C'est pas complètement vrai, parce que ça représente 10% du total. Ça représente un quart des 40%. Les autres 30% sur le contrôle continu sont basés sur 3 évaluations sur chacune des disciplines qu'on a appelées des épreuves communes et qui reposent sur une banque nationale de sujets, ce qui permet de garantir parfaitement l'équité entre les candidats, d'autant plus que ces copies, et je crois que c'est une des préconisations de Pierre Merle, sont totalement anonymisées, donc il n'y a pas du tout de subjectivité du correcteur.
Mais ce que dénoncent certains enseignants, c'est qu'on va passer l'année de terminale et une partie de l'année de première aussi, donc à s'évaluer, à être évalué pour les élèves, et qu'on n'aura plus le temps de faire autre chose, y compris de mener des projets pédagogiques, parce que l'évaluation, ça prend du temps.
Vous évoquiez tout à l'heure dans les actualités la référence à Parcoursup. Dans l'ancienne application APB, ce sont les bulletins scolaires, point. Qui comptait et qui permettait aux établissements d'enseignement supérieur d'évaluer les candidats pour les filières sélectives, hein, et de déterminer si oui ou non ils acceptaient ces candidats. Demain, dans le baccalauréat, encore une fois, cette notation au fil de l'eau, c'est 10% du total. Je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'on passe finalement de 100% à 10%, mais c'est presque ça.
Pierre Merle, que pensez-vous de cette évaluation au fil de l'année, de ces notes qui vont compter davantage, qui vont peser sur l'avenir des lycéens ?
Alors, peut-être dans une perspective historique courte, le tirage au sort n'était pas un système satisfaisant, il faut bien le dire.
Là, système on parle actuel, de Parcoursup,
Oui, oui. Mais c'est par comparaison, parce que ce système me paraît pas totalement satisfaisant, pour la raison qui a été en partie indiquée précédemment, c'est-à-dire qu'on sait que ces contrôles vont susciter beaucoup de stress de la part des élèves. Moi, j'ai enseigné longtemps en terminale, 10 ans, et ce qui était extraordinaire, je dirais, c'était qu'en tant que prof, on était uniquement des entraîneurs. On était là que pour aider les élèves, on n'avait pas à les évaluer. Aujourd'hui, on va avoir une situation qui va être plus complexe. C'est très bien d'avoir créé ces banques. On attend de voir comment elles vont se construire, mais sur le principe, c'est bien qu'il y ait des banques nationales de sujets, que les copies soient anonymes, donc ce sera fait au niveau du lycée. Mais on s'inquiète, à juste titre, quand, par exemple, certaines universités indiquent qu'elles vont pondérer les notes selon le type de lycée. Alors, on ne sait pas si ça va se faire, il paraît que ça se fait, si j'ai bien compris. Et donc, on va avoir des lycées, sans doute les meilleurs, qui vont avoir une pondération plus forte pour ce type de notes, d'autres lycées qui vont avoir une pondération inférieure. Il va donc y avoir une course qui existe déjà au niveau des meilleurs lycées et qui va favoriser, en fait, des perceptions des lycées qui vont être très hiérarchisées et avec des effets défavorables.
Et c'est ce que je disais tout à l'heure, les établissements sont classés et
bien
c'est
sûr,
ce qui se passe
y a
aussi.
Des effets de réputation qui risquent de jouer dans la sélection. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il y a des algorithmes qui sont mis en œuvre par les universités. On constate qu'il y a 200, 300 élèves qui sont ex-aequo, candidats qui sont ex-aequo. Comment les départager ? Eh bien, on se dit qu'un élève qui vient du lycée Louis-le-Grand est sans doute meilleur qu'un élève qui vient du lycée Louis-en-Velin. Donc, on voit bien qu'il y a des bonnes raisons, je dirais, mais qui sont contestables, de prendre plutôt tel élève de tel lycée plutôt que dans tel autre. Et on va voir qu'on va créer ainsi des hiérarchies de lycées qui existent déjà et aboutir à un certain arbitraire dans l'évaluation. C'est tout de même ce qu'il faut éviter, parce que le but, c'est de faire une évaluation juste. Donc je me demande si c'est un bon système pour cette raison-là.
Une courte réponse de Jean-Marc
oui.
Huard.
Non, mais enfin, on est quand même en train de finalement, en estimant un petit peu les limites supposé de Parcoursup, de considérer que l'ancien système fonctionnait très bien. Alors, l'ancien système,
non, c'est pas ce
il
que
nous
j'ai
mène.
J'ai dit qu'il posait problème.
Voilà. L'ancien système nous a mené l'été dernier à avoir plusieurs dizaines de milliers d'élèves qui n'étaient pas affectés. Et on a un système, et c'est aussi pour ça qu'on fait la réforme du baccalauréat, dans lequel on a 6 étudiants qui rentrent en première année de licence, qui n'y réussissent pas. Les notes à terme, des épreuves terminales vont pouvoir compter et pouvoir être introduite dans Parcoursup. Et donc là, on a un phénomène, et alors qu'aujourd'hui, enfin, ou qu'hier, hein, dans l'ancien système APB, c'était effectivement les notes au fil de l'eau qui étaient intégrées, là on a une forme d'objectivisation supplémentaire qui permettra véritablement aux établissements de recruter les candidats en connaissance de cause.
Voilà pour la réponse de Jean-Marc Huard. Nous nous sommes fait rattraper par l'actualité, mais c'est vrai qu'elle est importante, ces Parcoursup. C'est en ce moment pour tous les élèves de terminale de France. Il y a tout de même un autre sujet que je voudrais aborder, c'est la manière dont les notes, l'évaluation a complètement envahi la société. Je vous propose d'écouter un petit extrait d'une série qui s'appelle Black Mirror.
Oh, je vois qu'il reste une place sur un autre vol pour un départ ce soir. Elle est réservée à nos membres privilèges. Il vous faut un minimum de 4.2 pour en bénéficier.
Oh, ça tombe bien, c'est ma note.
J'ai bien peur que vous n'ayez que 4.18. Désolée.
Oh, eh bien, ce n'est pas ma faute. C'est cette femme qui m'a mis une mauvaise note quand j'ai pris mon taxi.
Vous m'envoyez désolée, mais je ne peux pas faire autrement, voyez-vous.
Mais il ne me manque presque rien.
Je n'y peux rien, madame, c'est le règlement.
C'est pas la mienne.
Non, mais encore. Madame, s'il vous plaît, surveillez votre langage.
Pardonnez-moi, le truc, c'est que... En tant que témoin de la mariée, je ne peux pas ne pas assister au mariage.
Et en tant que membre du personnel, je ne peux rien y faire.
Pouvez-vous appeler votre
responsable ? Je n'ai pas le droit.
Pouvez-vous appeler votre responsable ?
Je n'ai pas le droit.
Je t'ai demandé d'appeler ton responsable.
C'est du manque de respect. Nous ne tolérons pas le manque de respect.
Veuillez m'excuser, je ne voulais pas.
Je dois m'occuper de cette dame, s'il vous plaît.
Non, 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 non.
Laissez passer la prochaine cliente, madame.
Non, non,
s'il vous plaît.
Trouve-moi un putain de vol !
Je vous demande pardon. Je viens d'appeler la sécurité.
Non, non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je peux vous mettre la note maximale, et voilà.
Qu'est-ce qui se passe ici ?
Intimidation et injure publique.
Non, non, ce n'était pas de l'intimidation. J'essayais seulement de...
Très bien. Donc, afin de restaurer le calme en vertu des pouvoirs qui me sont conférés au nom de la sécurité de cet aéroport, je vais vous sanctionner par une pénalité d'un point, de façon temporaire.
Non.
Cette pénalité sera levée dans 24 heures.
Rendez-moi mes points maintenant.
Durant cette période, toutes les notes négatives seront doublées.
Doublé.
Nous vous recommandons également d'éviter d'attribuer des notes négatives.
Vous me mettez en double peine ?
Je vous demande instamment de quitter cet aéroport. Merci.
Black Mirror, c'est une série d'anticipation britannique. Cet épisode s'appelle « Le chute libre ». Et dans le monde, imaginez dans cette série, les citoyens se notent les uns les autres. On note plus seulement les services, un chauffeur de VTC ou un agent d'un service de téléphonie mobile. Mais on se note les uns les autres toute la journée. Ceux qui ont une bonne note ont accès à certains services, à certaines résidences, à certains appartements. Et finalement, la réalité rejoint la fiction quand on voit qu'en Chine, aujourd'hui, les Chinois sont aujourd'hui évalués et que cette évaluation pourrait aussi leur être préjudiciable pour des choses qui n'ont plus rien à voir, du type se déplacer en avant, tiens, comme dans l'épisode de Black Mirror. Sur cet envahissement de la note et de l'évaluation, Pierre Merle, j'aimerais bien entendre votre opinion en tant que spécialiste du sujet.
Alors, je dois vous dire que la première réaction en entendant cet extrait, c'est que j'ai pensé finalement à notre conversation, c'est-à-dire à Parcoursup. C'est-à-dire qu'à 0,2 points ou 0,02 points, certains élèves vont être pris, certains candidats vont être pris et pas d'autres. Et je dirais que ce qui se passe au niveau de l'école, c'est-à-dire ce stress, ces burn-out, ces démotivations, ces décrochages scolaires qui vont aussi se retrouver dans la société professionnelle et même dans la société tout court, si chacun a ce pouvoir un peu absolu de pouvoir juger son voisin, et on va rentrer dans une société de classement qui va être une société de stress permanent. Au lieu de développer la bienveillance, et je vais rajouter la confiance parce que je suis œcuménique, au lieu de développer ce type de société, on va développer une société de concurrence, de méfiance, qui n'est pas favorable au bien-être des individus, puisque finalement, tout le but d'une société, que ce soit à l'école ou hors de celle-ci, c'est bien d'essayer de faire en sorte que nous vivons bien. Or, le jugement est quelque chose qui est concurrent au bien-être.
Jean-Marc Huard, les notes, l'évaluation, ça doit rester à l'école ?
Mais déjà, je suis pas sûr que l'école soit responsable
de
tout et implique effectivement cette course finalement à la notation. En même temps, cette évaluation qui dépasse les frontières de l'école, c'est une réalité. Et à l'inverse, l'école peut pas rester un îlot dans lequel on n'aurait pas du tout ces éléments-là. Et d'ailleurs, les enfants, de manière assez naturelle, vont vers la pratique sportive, vont vers des jeux vidéo. Sans être particulièrement incité, je parle des jeux vidéo, sur le système scolaire d'ailleurs. Donc il y a aussi une tendance naturelle à une forme un petit peu de challenge, de compétition. Quand on fait une course, finalement, il y en a un qui arrive en premier et un qui arrive en deuxième. Donc l'évaluation, elle participe aussi à la construction des enfants et à leur apprentissage, à leur entrée dans la vie d'adulte.
On l'a vu, ce sont bien deux visions qui s'affrontent sur l'évaluation. À vous de choisir la vôtre. On va passer à la toute dernière rubrique de l'émission, c'est à la leçon de choses de Sophie Bobert. Et aujourd'hui avec l'écrivaine Geneviève Brisac, qui fut une petite fille qui grandit dans le silence et qui a appris à l'école eh bien, ce que c'était que le courage.
On ne parlait pas chez nous de ce qui était arrivé aux générations précédentes. Il y avait d'un côté la Shoah dans la famille de mon père et certainement on n'en parlait pas comme dans énormément de familles juives françaises. Et de l'autre côté, du côté de la famille de ma mère, c'était des Arméniens et d'origine grecque et turque. Et là non plus, on n'en parlait pas.
Mais qui vous aidait à faire vos devoirs à l'école? Qui vous parlait de la langue française, de l'histoire? Vous êtes devenue éditrice, au final.
Je suis d'abord devenue écrivain. Mais avant de devenir éditrice et enseignante aussi, j'étais prof de français... J'ai réfléchi à cette question de ce que personne ne m'aidait à faire mes devoirs et personne ne s'en occupait parce que ça allait très bien à l'école. Et je pense que pour des petites filles comme moi, des petites filles de la ville, des petites filles élevées dans une certaine misère affective probablement, l'école ça représentait tous les espoirs. Et la première maîtresse par exemple était une petite femme avec des cheveux blancs très courts qui s'appelait Mademoiselle de Malprade. Et Mademoiselle de Malprade était une conteuse extraordinaire. Elle racontait la découverte du feu et la découverte de l'écriture. Et je me souviens encore de cette phrase « J'ai trouvé le feu ». Je trouvais ça absolument prodigieux. Et un jour, elle nous a raconté Lutèce, la ville de Lutèce, donc Paris. Elle expliquait que Lutèce allait être envahie par Attila, le fléau des Huns. Et à ce moment-là, nous dit-elle, une jeune femme s'est levée. Et elle a dit au peuple de Lutèce « Nous allons résister, nous allons lutter, nous ne serons pas détruits par Attila ». Et là, elle fait un grand silence, et je m'en souviens comme si c'était hier. Et elle dit, cette jeune femme s'appelait Geneviève. Et je pense que de ce jour-là, j'ai plus eu peur. Et c'est très important pour les petites filles de ne pas avoir peur. Une grande partie du conditionnement des petites filles est organisée autour de la peur. On leur dit, fais attention, on leur dit, te fais pas remarquer, on leur dit, tiens-toi tranquille, on leur dit, ne nous dérange pas, on leur dit aussi rien. On ne les investit pas. Et moi, j'ai été investie une première fois par cette institutrice qui croyait en moi, je crois, et ça m'a énormément aidée. Non, j'ai aimé l'école, j'ai aimé le collège, j'ai aimé le lycée. C'était mon territoire, c'était un territoire où c'est l'intelligence qui fait la différence quand même. Et puis j'aspirais tellement à montrer que j'étais la meilleure. Donc j'étais vraiment dans ce dispositif très connu des petites filles qui pensent que si on juge que sur le cerveau, sur les notes, sur les devoirs, ben ça ira.
Pourtant, Geneviève Brisac, à 13, 14 ans, votre vie change puisque vous devenez anorexique. Mais à l'école, comment est-ce que vous avez géré cette situation?
Comme la plupart des jeunes filles anorexiques, c'est progressif. Et puis, à la fin de la classe de 3e, justement, les professeurs ont commencé à s'en inquiéter. Mais je continuais à travailler très bien jusqu'au moment où j'ai plus pu. Et donc, j'ai dû laisser tomber. Et j'ai été hospitalisée à ce moment-là. Et ça a été très, très douloureux, effectivement. Oui, je pense qu'à ce moment-là, les livres m'ont sauvé la vie.
Et le retour au lycée, comment ça s'est passé?
Alors, le retour au lycée, je ne m'en souviens pas très bien. Je ne me souviens pas de comment ça se passe. Parce que je deviens à ce moment-là une personne enfermée. Je suis comme... Je vis dans ma tête, je ne peux plus du tout communiquer avec les autres, je suis très douloureuse jusqu'à mai 68. Et c'est mai 68 dont on parle énormément en ce moment, de toutes les manières possibles, qui m'a prise dans son fleuve, dans son élan, dans son tourbillon. Et la possibilité, là, de nouveau, d'espérer, la possibilité de vivre, la possibilité de vivre avec les autres, et puis la possibilité d'être une fille libre au milieu d'autres filles libres. À ce moment-là, je suis en terminale C, en terminale scientifique, je fais absolument rien, faut bien dire. Je laisse tout laisser tomber, et on se demande même comment j'envisage, je m'en fiche complètement d'aller passer mon bac ou pas. Et on occupe le lycée, hein, c'est en mai 68, et le fait d'occuper le lycée, de discuter entre nous, de faire ces groupes de travail pour réfléchir sur l'enseignement qu'on souhaiterait, sur la façon dont on voudrait que l'école soit liée au monde, que la littérature soit liée au monde, aux autres, est très importante pour moi et même déterminante, je pense.
Et le dernier ouvrage de Geneviève Brisac s'appelle « Chagrin d'aimer ». Il a paru chez Grasset il y a quelques semaines. N'oubliez pas que Rue des Écoles, c'est aussi un podcast, et oui, pour écouter l'émission quand et où vous voulez. Je vous indique que la semaine prochaine, nous parlerons des neurosciences à 17h, donc sur France Culture. J'ai toute une équipe à remercier également, soit Boukorsa à la réalisation, Jean Guilin, Meige, Florent Bujon à la technique à Paris, à Rennes, c'était Erwan Ferrezou. Et puis je remercie aussi Marie Dalquet, notre attachée d'émission. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France Culture.